d'affolement. Nous voilà.
Bonjour, c'est l'émission en direct qui n'avait pas eu lieu depuis un petit moment à cause du coronavirus. Mais maintenant, c'est reparti. Pas d'affolement, nous voilà sur Radio Entre-deux-Mers 98.4.
Nous sommes en présence de Valérie, Jean-Louis, Joseph, Béatrice, Guillaume, Francis à la technique et moi-même aussi.
Joseph, pouvez-vous nous dire qui a assisté à la préparation de cette émission ?
Mais c'est notre collègue Francis.
Il y avait Guylain aussi, me semble.
On participait à l'émission. Philippe, Guylain, Azedine, Mélina, Sylviane, Brigitte.
Merci Joseph. Nous vous présentons notre invité Damien, paysan boulanger à Barry et responsable d'antenne à la radio Entre-deux-Mers. Bonjour Damien.
Bonjour.
Comment d'animateur radio êtes-vous devenu boulanger ?
Alors comment d'animateur radio je suis devenu boulanger ? Il y a quelques années, avec un ami de Barry, on discutait pas mal de différentes choses. Et un jour, on a eu la possibilité de récupérer des terres sur Barry en fermage. Donc, c'est de la location de terres. Et ça faisait quelques années qu'on faisait du pain à la maison, qu'on faisait différentes choses tous les deux. On avait récupéré du levain et on faisait du pain chez soi. Et on avait dans la tête des projets agricoles dans un futur, de faire quelque chose en commun à plusieurs sur la commune de Barry. Et du coup, cette opportunité de récupérer des terres nous a fait passer le cap et donc on est devenu paysan et on transforme notre matière première en farine et donc en pain, d'où le paysan boulanger.
Depuis combien de temps vous faites boulanger ?
Alors, on est concrètement, on est boulanger depuis le mi-septembre de 2020. Et le projet, lui, s'est créé au printemps 2019. Et on a semé nos premiers blés à l'automne 2019. Donc ça fait presque 2 ans.
Est-ce que la boulangerie est une passion pour vous ?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Parce que voilà, moi, je faisais du pain à la maison là, depuis quelques années. Toutes les semaines et au fur et à mesure de travailler au levain et de voir apparaître les pains que l'on fait, ça te fait devenir une passion. C'est addictif presque.
Comment avez-vous appris à faire la farine du pain ? Avez-vous fait un stage ?
Alors, j'ai commencé tout seul en lisant des livres, comme ça, en se renseignant. Et au fur et à mesure, on a fait un stage dans les Landes d'une journée pour apprendre un peu de technique manuelle, surtout, pour avoir le coup de main. Et une fois que le projet s'est lancé et que c'est devenu beaucoup plus sérieux, là, on est parti se former en Bretagne, chez un paysan boulanger depuis 25 ans. Et on a appris un peu tout, de la graine jusqu'au pain, donc de la culture et également de la technique pour le pain.
Faut-il un diplôme pour être boulanger ?
Pour être boulanger, oui. Pour être boulanger, il faut au minimum le CAP boulanger. Mais nous, on n'est pas boulanger. Je tiens vraiment à le préciser. On ne se revendique pas boulanger. On est des paysans qui transforment notre matière première en pain. Donc, c'est vraiment de la transformation et on n'est pas des boulangers. Mais bon, on fait quand même du pain qui est apprécié.
Quelle graine avez-vous ?
Alors, cette première année, première culture, donc en 2019, on a pu récupérer des variétés anciennes, dites anciennes, du moins, c'est du rouge de Bordeaux. C'est une variété qui s'appelle rouge de Bordeaux. Actuellement, on utilise la farine issue de nos graines, donc de rouge de Bordeaux.
Êtes-vous responsable de votre boulangerie ?
Oui, tout à fait. On est deux, donc les deux Damien Tauzin et moi-même, Damien Palaruello, à être... Les gérants de cette société.
Travaillez-vous avec d'autres personnes ?
Comme je disais, on travaille à deux principalement sur la société. Après, on a l'aide de voisins, de copains qui nous aident, qui nous ont particulièrement aidés sur les travaux du fournil, du four. Et surtout les travaux intenses, comme lors de la récolte, lors des différents travaux, on est entouré, quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
Avec plaisir.
Maintenant, nous allons continuer avec les fables de La Fontaine, proposées par Guylain. Et merci encore pour vos réponses.
Le chasseur et le loup. Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux. Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage ? Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons ? L'homme, sourd à ma voix comme à celle d'un sage, ne dira-t-il jamais : c'est assez, jouissons ? Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre. Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre. Jouis, je le ferai. Mais quand donc ? Dès demain. Hé, mon ami, la mort ne peut te prendre en chemin. Jouis dès aujourd'hui. Redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable. Le premier, de son arc, avait mis bas un daim. Un fond de biche passe, et le voilà soudain. Compagnon du défunt, tous deux gisent sur l'herbe. La proie était honnête, un daim avec un fond. Tout modeste, chasseur en eût été content. Cependant, un sanglier, monstre énorme et superbe, tente encore notre archer, friant de tels morceaux. Autre habitant du Styx, la parque et les ciseaux. Avec peine y mordait. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant il s'abattit. C'était assez de bien. Mais quoi ? Rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes. Dans le temps que le porc revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrix marcher. Surcroît chétif aux autres têtes. De son arc, toutefois, il bande les ressorts. Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps. Et la perdrix le remercie. Cette part du récit s'adresse au convoiteux. L'avare aura pour lui le reste de l'exemple. Un loup vit, en passant, ce spectacle piteux. « Oh, fortune, dit-il, je te promets un temple. Quatre corps étendus, que de bien, mais pourtant, il faut les ménager, ces rencontres sont rares. J'en aurai, dit le loup, pour un mois pour autant. Un, deux, trois, quatre corps, ce sont quatre semaines. Si je sais compter toute pleine. » Commençons dans 2 jours, et mangeons cependant. La corde de cet arc, il faut que l'on l'ait faite. De vrais boyaux, l'odeur ne me témoigne assez. En disant ces mots, il se jette sur l'arc qui se détend, et fait de la sagette un nouveau mort. Mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoin ces deux gloutons punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice.
Et maintenant, nous allons écouter un texte de Saint-Valentin, lettre à Cupidon.
Lettre à Cupidon de Valérie. Telle la cime des grands sapins qui s'habillent de neige d'étoiles, je rêve de moments tendres et doux à me lever contre toi. Tel l'envol des hirondelles pour l'arrivée du printemps, mes pensées m'emmènent vers toi. Il n'y a aucune distance quand on aime, il n'y a aucune fissure dans le cœur. Il n'y a que des bonheurs qui nous remplissent le cœur. J'ai rêvé très fort et je me suis envolé dans un arc-en-ciel rempli d'étoiles, de promesses enchantées. Je voudrais voir l'apogée des sentiments que je recherche à tes côtés, tout couronné de passion et de romantisme de velours pour t'aimer et t'emmener dans la flamme de la vie, les doux moments d'amour pour un début d'histoire ensemble. Cupidon, bienveillant, entends mon cœur, il chante et joue de ta magie sur moi pour qu'en moi, ce sentiment s'élève et me donne celui qui me plaît. Je me rendors assuré et je rêve d'un bonheur tout nouveau, doux comme un cocon de pétales de fleurs, tout douillé qui me porte vers les cimes de l'amour et comme ces cimes de sapin recouverts de neige étoilée, je m'enveloppe dans mes douces pensées pour m'éveiller près de toi. L'amour, qu'on se le dise, est un art que Cupidon maîtrise, mais que nous cherchons tous, que notre cœur soit fructueux, car le bonheur n'attend pas. Nous sommes toujours sur 98.4 FM, à la radio Entre deux Mers, et j'ai fait une interview de la librairie de Jeux de mots à Cadillac, et j'aimerais que vous entendiez la première partie de cette interview. Bonjour, je suis Valérie, je suis à la librairie Jeux de mots de Cadillac. Je vous présente Monsieur Bertrand, propriétaire de la librairie de Jeux de mots. Comment vous est venue l'idée d'appeler votre librairie Jeux de mots ?
Alors bonjour, comment m'est venue cette idée ? Lors d'un rêve, il y a maintenant 18 ans et demi, j'étais au chômage, et puis je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et puis je suis allé à la plage, je me suis endormi sous le soleil. Et puis quand je me suis réveillé de cette sieste chaleureuse, j'avais une image dans ma tête et j'étais devant un magasin avec plein de livres. Il y avait marqué « Jeux de mots » au-dessus et j'étais libraire. Voilà. Et je n'avais pas imaginé que je serais libraire un jour, sauf quand j'étais tout petit. Mais voilà, ça m'est remonté comme ça. Donc voilà, je suis parti après avec cette idée et 3 mois après, j'avais créé ma librairie. Voilà.
Quel sens doit-on donner à ce nom ? Qui joue sur les mots.
Alors oui, c'est en effet un jeu de mots. Disons que la librairie est constituée en deux parties. En tous les cas, la première librairie, l'originelle, la première partie était constituée de jeux. Je vendais des jeux, des jouets. Et puis la deuxième partie, c'était la librairie et donc c'était les mots. Et ça faisait un jeu de mots. Voilà.
Votre magasin est agencé comment ?
Eh bien, là, en ce moment, ce magasin, maintenant, c'est le deuxième magasin. Et donc, il y a aussi un salon de thé à l'entrée et au fond, en même temps. Donc, il y a à la fois le salon de thé, il y a un comptoir à thé. Hein, on peut acheter du thé en vrac. Il y a des jouets, toujours. Mais il y a la librairie, on va dire, aux deux tiers du magasin, c'est une vraie librairie, quoi. Une librairie générale.
Donc, il n'y a pas que des livres.
Oui, alors pourquoi il n'y a pas que des livres ? Parce qu'en fait, je conçois pas un magasin avec un seul produit, un seul type de produit. Moi, j'aime bien mélanger plein de choses, j'aime plein de choses différentes. Déjà, j'aime bien proposer tout ce que j'aime. Alors, j'aime bien la spiritualité, je vais faire la spiritualité, j'aime bien l'écologie, je vais mettre beaucoup de choses sur l'écologie, l'environnement, etc. Et puis j'aime bien le thé, alors forcément je vais vendre du thé, voilà.
Donc ce sont des coups de cœur.
C'est que des coups de cœur, ouais. C'est que ce que j'aime. Voilà.
Quel type de livre vendez-vous ?
Ben alors, on est librairie générale, donc ça veut dire qu'on vend tous les types de livres, donc une forte propension à vendre des livres jeunesse, des albums, des romans jeunesse, pour tous les âges, hein, de 0 à 99 ans, hein, pour tous les jeunes. Et puis aussi, donc après, des romans, bien sûr, des essais, ça peut être des essais politiques, ça peut être des essais historiques, ça peut être des essais régionalistes. On va vendre aussi pas mal, on va dire, de... Comment dire, de... Ouais, de documents, de... ce qui nous intéresse, c'est d'être, voilà, divers et variés, voilà. On a des mangas aussi, des bandes dessinées, enfin, il y a plein de choses, voilà.
Avez-vous des types de livres pour quelle tranche d'âge?
Ah ben, pour toutes les tranches d'âge, voilà, c'est de 0 à 130, 50 ans, voilà.
Quels thèmes sont les plus souvent traités?
Alors, chez nous, on est très, bon, voilà, on est très proche de l'environnement, de ces thèmes-là. On aime bien se donner peut-être une petite mission pour informer les gens comment en fait passer petit à petit d'une économie, on va dire, marchande et consumériste à une économie beaucoup plus d'échanges et saine pour tout un chacun. Notamment, on est très proche aussi de la permaculture pour tout ce qui est... jardin, voilà, la nature, enfin tout ce qui a un rapport avec la nature. Donc on aime bien développer les jardins forêts, les forêts comestibles. Donc on va avoir pas mal de livres là-dessus, voilà, enfin plein de trucs, des coups de cœur, quoi, hein, aussi.
Oui. D'où le salon de thé aussi.
Ben, le salon de thé, oui, parce qu'il nous permet, vous voyez, là, on est attablés tous les deux autour d'une table, mais l'intérêt, c'est d'échanger. On ne vient pas ici que pour acheter des choses, on va aussi juste prendre un bon moment, échanger, rencontrer des gens. Ça, c'est vachement chouette.
Que conseillez-vous pour un enfant en bas âge?
Ah ben, ça dépend de l'enfant, si c'est une fille, un garçon, si y a plein de... Voilà, on va poser plusieurs questions en fait aux clients, et puis voir un peu ses centres d'intérêt déjà. Si à 4 ans, 5 ans déjà, ils peuvent commencer à avoir des petites passions, des centres d'intérêt. Donc on va essayer de focaliser là-dessus, et puis de répondre à son besoin, voilà. On va poser des questions.
Avez-vous une préférence pour un adolescent sur le thème et le type de livre pour l'inciter à lire?
Oui, mais là aussi, c'est pareil. On va avoir ses passions dans la vie. S'il est sportif, bon, ben, on va essayer de trouver des livres qui vont avoir dans l'histoire du livre une connexion avec le sport qu'il aime. Je ne sais pas s'il aime, mettons, l'histoire des Romains ou des Gaulois, ben, on va essayer de trouver un roman qui se passe à Pompéi ou qui se passe avec Vercingétorix Gétorix ou des choses comme ça. Voilà. Et puis après, si c'est un adolescent un peu plus âgé, bah là on va essayer de trouver peut-être des romans plus alors sur l'anticipation ou sur la fiction, la science-fiction ou des choses sur des thèmes où il se pose des questions et il n'a pas les réponses. Donc on va essayer de lui trouver les réponses. Voilà, ça peut être sympa aussi.
Donc c'est une éducation.
C'est une éducation, oui. La lecture, en fait, nous éduque, la lecture nous nourrit, nous enrichit. La lecture, c'est un loisir puissant, parce que c'est un loisir qui va nous donner plein de richesses supplémentaires. Une fois qu'on a fini un livre, on a appris plein de mots différents, mais sans s'en apercevoir même. C'est ça, l'inconscient s'alimente par la lecture. C'est génial, ça, c'est génial.
Pour les adultes, quel livre fonctionne le mieux dans votre magasin?
Ah ben, en ce moment, ce sont après les fêtes de fin d'année, ce qui a beaucoup marché, bien sûr, c'est les prix littéraires, comme tous les ans, hein, les prix Goncourt, le prix Femina, tout ça, prix Médicis, c'est tout. Et puis, autrement, les bandes dessinées marchent pas mal, parce qu'on arrive à la période, alors théoriquement, du Salon d'Angoulême. Mais le salon d'Angoulême, cette année, va être pas facile à être organisé, puisqu'il va être virtuel. Donc, mais quand même, il y a des sélections de bandes dessinées dont on va parler beaucoup. Donc là, on commence à les faire rentrer au magasin.
Maintenant, messieurs, à la suite de ce reportage, pouvez-vous me dire si vous lisez, si vous aimez les livres, quel intérêt ça a pour vous dans une librairie qui accueille les gens?
Moi, j'aime bien, comme Alfred Michel, j'aime lire beaucoup de romans d'amour et tout.
Des romans d'amour politique
policier.
Policier. Joseph.
Moi, c'est pareil, j'aime bien lire le soir parce que ça détend et ça m'en fait dormir un peu. Et je lis un peu de tout. Un peu de tout, je lis.
Eh bien, moi, j'aime pas la lecture.
Ah, bon. Oussine, avez-vous quelque chose à nous faire découvrir?
Une chanson de Sylvain Vita, je te donne, proposée par Sylvain.
Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop. Tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffre. Si tu le veux, prends, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là.
Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffre. Si tu le veux, prends, je te le donne.
Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne.
Tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas.
Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, je te le donne.
Radio Entre-deux-Mers, pour l'émission Pas d'affolement, nous voilà. Nous recevons aujourd'hui Damien et nous en sommes à une nouvelle question à lui poser. Quel est le nom de votre boulangerie ?
Alors, donc comme je vous disais, ce n'est pas une boulangerie au sens strict du terme. On appelle ça le fournil. C'est le lieu où on fait le pain. Et ça s'appelle le fournil des Dames. Parce qu'on est deux Damiens, donc le fournil des Dames.
Où est installé ce fournil ?
C'est installé du côté de Barry. Barry, c'est entre Castets-en-Dorthe et Lariole.
Quelle ferme utilisez-vous ?
Quelle farine on utilise ?
Quelle ferme utilisez-vous ?
Non, farine.
Que cultivez-vous dans votre ferme ?
Qu'est-ce qu'on utilise dans notre ferme ?
Que cultivez-vous dans votre ferme ?
Du blé. Du blé. On est donc dans une démarche d'agriculture de conservation, donc on a semé du blé en association avec de la fèverole. La fèverole, c'est une légumineuse en fait qui permet de capter l'azote de l'air pour restituer au sol et donc à la plante qui pousse avec. Donc comme ça, on évite les amendements. Et on a également semé de la luzerne sur une certaine partie.
Comment développez-vous votre boulangerie ?
Comment on développe notre boulangerie ? Au début, ça a été du bouche à oreille. On a communiqué via Facebook, via également la voie de presse, les journaux. Et après, les gens nous ont contactés. Et on avait aussi un site de vente qui s'appelle cagette.net, qui nous a permis d'être connus aussi. Et voilà comment ça se développe très simplement. Et après, c'est le bouche à oreille et les publications dans les médias. Quoi.
Quel type de cuisson utilisez-vous ?
Alors, on cuit notre pain au feu de bois. On a construit un four à bois au printemps. Et du coup, c'est une cuisson au feu de bois.
Est-ce que vous avez un bois particulier ?
Pour l'instant, pas spécialement. On fait avec le bois que l'on trouve. On a utilisé des bois blancs. Maintenant, c'est de l'acacia. Après, chaque bois est différent au niveau de la cuisson. Donc, il faut réussir à s'adapter. Et là, en ce moment, on est sur l'acacia. Ça se passe assez bien.
utilisez-vous la levure du venin pour faire la pâte ? Levure.
Alors, on n'utilise pas de levure, on fait du pain au levain naturel. Donc, on fait tout au levain. Il n'y a pas du tout de levure chimique, du moins dans notre production, c'est au levain.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le levain ?
Alors, le levain, c'est tout simplement de la farine et de l'eau. On mélange la farine et de l'eau. Et à un moment donné, les bactéries présentes dans la farine, les bactéries et les levures naturelles présentes dans la farine, se mettent à fermenter à une certaine température. Ça se met à fermenter, ça crée de la fermentation. Et après, c'est ça, le levain, donc, qui permet d'ensemencer la farine et l'eau que l'on rajoute pour faire du pain. Donc on part avec une petite base de levain et ça permet d'ensemencer une grande quantité de pâte.
Ça donne très faim, tout ça. Je vous propose... maintenant, d'écouter de Didier, la tarte aux pommes.
Bonjour, c'est Didier. Je vous présente la recette d'une tarte aux pommes. 45 minutes, très facile, bon marché. Ingrédients, 6 personnes. Une pâte brisée, 3 pommes, 300 g de pommes, 20 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre roux ou de sucre vanillé. Préparation, 15 minutes. Cuisson, 30 minutes. Préchauffer le four à 200 degrés, disposez la pâte brisée dans un moule à tarte et piquez le fond de tarte avec une fourchette. Placez l'ensemble au frigo le temps que vous prépariez les pommes. Épluchez les pommes et coupez-les en tranches d'environ 3 mm d'épaisseur. Disposez une couche de compote de pommes sur le fond de tarte, puis disposez les pommes en cercle sur le fond de tarte. Veillez à les disposer joliment. Ajoutez quelques noix de beurre sur les pommes. Saupoudrez les pommes de 2 cuillères à sucre de sucre roux ou de sucre vanillé, enfournez 30 minutes à 200 degrés. Dégustez tiède ou froid, un panier d'une boule de glace vanille pour les plus gourmands.
Maintenant, Joseph, avez-vous entendu parler de la pollution ?
Oui, j'ai entendu parler de la pollution.
Ça faisait quelque chose?
Oui, ça m'en fait quelque chose parce que on est dans l'embarras avec les voitures électriques qui est présentée par Brigitte.
On connaît tous Brigitte qui nous raconte toujours quelques péripéties qui se passent dans les grandes surfaces. Mais maintenant, Brigitte, elle est aussi à la pointe du progrès, puisque Brigitte a eu l'occasion de monter dans une voiture électrique. Alors on va écouter le récit de Brigitte et son aventure avec la voiture électrique. Bonjour Brigitte.
Bonjour Francis. Bien, je vais vous raconter comment marche une voiture électrique. Je suis montée avec mon beau-frère et ma nièce sur une voiture électrique. Et comme sa voiture normale était en panne, il lui en a prêté une pendant une semaine. On a été à Leclerc, mais c'est bien parce qu'on n'entend pas le bruit du moteur. Quand nous sommes arrivés à Leclerc, nous l'avons branchée à la bain pour la recharger. N'ayant pas l'habitude de ce mode de fonctionnement, mon beau-frère a tout fait pour débrancher la prise. Il a dit à sa nièce Rosette, tiens la borne, parce que je crois que je vais tout arracher. Et on a bien ri. Y a-t-il des bornes partout? Combien d'autonomie de charge? Et c'est dangereux car on n'entend pas les voitures arriver. Pour moi-même, j'aimerais avoir une voiture électrique, mais qu'on peut brancher plus facilement et le coût à la charge.
Eh oui, oui, c'est bien, mais les voitures électriques, ça fonctionne quand même au nucléaire. Alors, messieurs, vous y connaissez en moteur, qu'en pensez-vous?
Eh bien, c'est pas mal.
La voiture électrique?
Oui.
Pour l'avenir?
Oui. Je pense que ça va polluer moins qu'une voiture normale, même à la fabrication.
Joseph?
Ben, j'habite Cap-Cieux et il y a une borne électrique. Et les voitures se branchent dessus. Et une fois, j'en ai vu deux brancher. Et il y avait une troisième voiture qui voulait se brancher. Elle n'a pas pu se brancher. Il a fallu qu'elle attende, je ne sais pas combien de temps.
Et oui, c'est le problème. Il n'y a pas assez de bornes.
Il n'y a pas assez de bornes, non.
Y a-t-il assez de bornes pour vous aussi?
Oui, une voiture de bornes électrique, c'est d'avoir d'abord la responsabilité d'avoir à prendre les bornes pour faire l'électrique, je préfère voiture
électrique qu'à essence.
Voilà.
Mais c'est un progrès, c'est un progrès. Bon, mais...
Et maintenant, nous allons parler... Non, excusez-moi. Nous allons écouter Mélina, qui va nous parler d'un célèbre groupe, AC/DC.
AC/DC, c'est un groupe de rock originaire d'Australie qui existe depuis 1973. Il n'est composé d'un guitariste, d'un bassiste, d'un batteur et d'un chanteur. AC/DC s'est reconnu comme l'un des meilleurs groupes de rock. Julien a choisi de nous faire écouter son morceau préféré avec son père, El Ben. Quand j'écoute ce morceau, ben je trouve que ça me fait des frissons parce que le chanteur il chante hyper bien et il fait le rock and roll un petit peu fort.
I'm rolling thunder.
Et ça déménage, et ça déménage, et ça déménage. Oussine, on se réveille.
Maintenant, nous allons écouter Philippe qui nous parle de la librairie.
De la liberté, oui.
Voici mon poème.
La liberté.
Je t'aime, toi ma chère liberté, qui m'empêche d'être point et main liée à ce que la vie fait supporter, à tous les aléas dont on est prisonnier. J'aime être libre comme l'air, avec comme père et mère la sensation de ne devoir rien à personne et de boire à tout instant privilégié qu'on ne souhaite jamais terminer. Je t'aime ma liberté, qui est un allié quand ça va mal et que le moral est au plus bas. Tu es toujours là, tu es ma richesse qui me remplit d'allégresse.
Et maintenant, nous retrouvons Guylain pour son opération du nez.
Cher auditeur, chère auditrice, voilà, je vais être bientôt opéré d'une septoplastie, ou autrement dit, une septorhinoplastie. Voilà, je vais vous raconter comment ça se passe. Une visite au préalable chez l'anesthésiste pour mettre en lumière les futurs soins à prodiguer chez le patient est nécessaire. Plus que des soins, une intervention chirurgicale est nécessaire, et ce sous anesthésie générale. Après des recherches dans un cabinet ORL, puis dans un hôpital public, il a été décelé chez moi une déviation de la cloison nasale, celle-ci entraînant une obstruction nasale, des ronflements et infections des sinus. Parfois même elle peut entraîner l'infection des oreilles. J'ai l'obligation de prendre une douche bétadinée la veille de l'intervention. D'être à jeun à partir de la veille à minuit, je dois aussi réitérer une douche bétatinée le matin, avant d'être pris en charge en ambulatoire. Par ailleurs, je dois être délesté de mes bijoux et accessoires divers. Logiquement, je devrais rentrer en soins dès 7h du matin, au moins, et sortir au plus tard à 13h de l'après-midi le même jour. Mais il demeure que seul le chirurgien autorisera ma sortie. J'espère que tout ceci me sortira des sensations plus que gênantes à l'avenir. Donc pour moi c'est décisif et essentiel afin que je puisse savourer la vie comme il se doit. Je dois respirer. Et pourquoi respire-t-on? On peut répondre pour vivre. D'ailleurs à l'expression pour vivre, d'amour et d'eau fraîche on se devrait d'ajouter. Et d'air pur. À moins d'être des poissons et finalement eux-mêmes respirent dans l'eau. Le corps a besoin d'oxygène.
J'ai allumé la mèche et ça va faire des étincelles.
C'est chaud,
on pense qu'à faire la fête.
C'est chaud,
personne nous prend la tête.
C'est chaud,
on a changé de planète.
C'est chaud,
et on chante à tue-tête.
La la
pense ma voisine, de toute façon je me fous de ce que peut dire mon patron. C'est pas lui qui passe l'année dans les deux pièces avec cuisine. C'est pas lui qui passe l'année à bosser pour un vieux crouton.
C'est chaud,
on pense qu'à faire la fête.
C'est chaud,
personne nous prend la tête.
C'est chaud,
on a changé de planète.
C'est chaud,
et on chante à tue-tête.
La la.
La la.
c'est chaud,
personne nous prend la tête.
C'est chaud,
on va changer de planète.
C'est chaud,
et on chante à tue-tête.
Maintenant, nous faisons un petit coucou sur cette terre de fête à Philippe, Guilin, Mélina, enfin tous ceux qui ont participé à l'émission. En deuxième partie de la librairie de jeux de mots, nous allons retrouver l'interview écoutée tout à l'heure en première partie. Vous avez une terrasse ? Et on peut aussi consommer à l'intérieur, dans votre salon de thé. Quelle ambiance donnez-vous à votre clientèle ?
Alors oui, alors c'est vrai qu'habituellement, en période hors Covid, hein, on a une terrasse qui fonctionne très très bien. Et puis on a aussi une salle derrière où quand il pleut, quand il fait froid, et bien, tout le monde se réfugie dans cette salle pour se retrouver. Le truc, c'est que pour l'instant, avec le Covid, c'est pas trop facile. On fait que des boissons à emporter. Donc bon voilà, c'est, on peut pas trop en parler en ce moment, on en reparlera j'espère très vite, hein, en début d'année là. Voilà.
Vos produits asiatiques sont-ils authentiques ?
Ah ça c'est authentiquement fait oui, vous voulez parler quoi des jeux qui sont faits en Chine ou des choses comme ça ?
Oui, les pierres, les objets dans la petite vitrine.
Ah oui oui bah, alors oui c'est par exemple j'ai alors là enfin c'est pas dans la petite vitrine mais là par exemple on a fait rentrer des coussins de méditation. Ce sont des petits coussins où on s'assoit dessus pour faire de la méditation. Enfin, ils sont de toutes les couleurs et tout ça, et ça c'est fait en Inde par exemple. Mais c'est fait par des adultes d'abord, c'est fait par sous des normes très strictes, et c'est fait main. Voilà. Donc ça, on fait gaffe d'où ça vient. Hein. Après, par exemple, le thé, il est fait. Alors, il peut être fait à Taïwan, il peut être fait en Chine, il peut être fait. Il y a du thé d'un peu de partout. Mais ça, de toute façon, c'est obligé. Hein. On est obligé de faire venir le thé. Il vient pas de Gironde, quoi.
Pouvez-vous nous expliquer vos diverses pierres, disques et objets ?
Ah, ça va être compliqué là. Alors les disques, j'en ai plus beaucoup parce que avec la dématérialisation et le développement du numérique, les clients en fait téléchargent de plus en plus et on vend de très très peu de disques. Donc avant j'étais disquaire aussi, on avait vraiment pas mal de disques. Là on en a plus, pratiquement plus parce que on nous en demande pas du tout quoi. Voilà.
Moi je me rappelle, je vous avais acheté un disque de Cabrel et de je sais plus qui.
Ouais, mais c'était il y a quelques années.
Il y en a plus.
C'est fini ça.
C'était une collection spéciale.
Et ouais, mais c'est fini. Enfin, vraiment, on n'en fait plus. Hein. Ouais. Donc, c'est un de nos regrets parce que c'est quelque chose qu'on appréciait beaucoup. Hein. Alors, ce qu'on fait, on passe de la musique ici. Hein. Voilà, on paye la SACEM, c'est pas pour rien. On va passer la musique. À la boutique, mais je vends à part des CD de relaxation, d'auto-hypnose, des choses comme ça, parce qu'on demande encore. Bien, non, on va pas faire autre chose. Quoi, de CD. Alors après pour les pierres, la lithothérapie, c'est une, on va dire.
Une science.
Ouais, alors c'est pas forcément une science, c'est quelque chose, c'est empirique quoi. C'est sont des praticiens qui, au fil des millénaires, hein, au Pérou, en Chine, en Afrique, partout, en Australie, on s'est toujours servi des pierres et de leurs vertus pour faire des soins, pour accompagner énergétiquement et psychologiquement des gens. Les pierres sont présentes un peu partout. Les enfants, les premiers, vont collectionner des pierres toujours. C'est vraiment ou des fossiles ou des pierres. Elles sont attirées par les pierres. C'est pas anodin. Et donc la lithothérapie, c'est une pratique qui va faire en sorte que on va essayer de redécouvrir sensiblement la vertu de chacune des pierres et les ressentir et les faire siennes, qu'elles nous accompagnent dans nos vies. Les bracelets en pierre, les pierres roulées que l'on va mettre dans des autels, des autels de méditation, des autels de prière, etc. En fait, y a une demande de plus en plus importante, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être accompagné par quelque chose à laquelle on croit sans le voir forcément, mais on ressent les choses. Et ça, c'est passionnant à voir, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui me demande, et donc j'essaie de les conseiller au mieux. Hein, je lis des bouquins là-dessus parce que ça m'intéresse, et puis comme ça me permet de conseiller les gens, quoi.
Merci beaucoup. Votre magasin est très riche et très varié. On y trouve beaucoup de choses. Et que conseillez-vous au lecteur qui trouve pour qu'il trouve son bonheur?
Ce qu'il voudra trouver, hein. Il viendra me poser la question et je le guiderai selon chaque personne a des envies différentes, des besoins différents, donc on essaiera de le guider le mieux possible, et puis si on n'a pas, on commande, voilà, tout simplement. D'accord. Parce qu'on ne peut pas tout avoir.
Oui. Merci beaucoup de m'avoir reçu, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je vous souhaite vite un déconfinement pour vous.
Eh bien, je vous remercie, Valérie, et puis je vous souhaite également une très belle année chaleureuse, et puis déconfinée aussi.
Meilleure année aussi pour vous. Au revoir.
Au revoir.
Encore un grand merci à Jeux de mots, et je voudrais vous dire que nous sommes toujours sur Radio Entre deux Mers, 98.4 FM, dans l'émission Pas d'affolement, nous voilà, avec pour invité Damien. Damien, combien de temps se conserve votre pain ?
Alors, notre pain, il se conserve, on va dire, entre 4 et 5 jours, il est très frais. Et sur une semaine, ça peut se conserver si on le conserve dans un endroit frais. Mais 4 à 5 jours sans problème. Tout ça parce qu'il y a un taux d'humidité important dans la pâte et une cuisson au feu de bois qui permet la conservation.
Quel type de pain fabriquez-vous ?
Alors, pour l'instant, on n'a qu'une seule recette parce qu'on n'a qu'un seul type de farine. Et après, c'est les formes qui changent. On a des pains moulés en 800 grammes, des pains boules en 1 kg, 1,5 kg et 2 kg, et des bâtards en 1 kg.
Faites-vous autre chose que du pain ?
Pour l'instant, non, on ne fait que du pain, mais prochainement, du moins à moyen court terme, on a un ami qui devrait nous rejoindre et qui aura d'autres cordes à son arc, notamment type brioche ou quelques viennoiseries et autres qui pourraient compléter l'offre.
Ça va être très bon.
Quel est votre secret dans la boulangerie ?
Le secret dans la boulangerie, je pense que comme dans toute autre chose, c'est l'amour. C'est l'amour de l'action et de ce que l'on fait, et ça permet de se donner entièrement dans l'activité.
Comment avez-vous vécu le confinement ?
Le confinement, moi j'ai pas été vraiment confiné parce que j'ai continué à travailler, mais sinon ça, on va dire sur les temps libres, ça nous a permis de travailler sur la construction du fournil, car on a commencé à construire l'hiver dernier le fournil et le four. Et mon collègue et d'autres ont été confinés, donc de travailler depuis la maison également, mais il y avait du temps de disponible. Et ça nous a permis d'avancer sur le four, d'avancer sur le fournil, sur tous les travaux qu'on avait à faire, du moins le premier confinement. Et ça, pour nous, ça a été plutôt bien. On ne l'a pas vraiment mal vécu. On ne l'a pas vu passer. Oui.
Est-ce que vous êtes passionné de votre radio ou la boulangerie ?
Oui, c'est ce qui me passionne. C'est complémentaire, la radio et la boulangerie. On va dire que sur la radio, ça me permet de voir des gens et de parler pendant que je travaille. La boulangerie, je suis plutôt tout seul au moment du travail et donc je suis centré sur moi-même. Donc ça permet d'allier les deux.
Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
une anecdote à me raconter. On va dire que faisant cette activité au niveau du pain depuis le mois de septembre, c'est assez frais, donc il y a quelques histoires, mais pas trop au niveau de la boulangerie. Après, l'anecdote, l'année dernière, on a semé du blé en novembre, et 3 semaines après l'avoir semé, la Garonne a débordé. Et vu qu'on a des terres qui sont en bord de Garonne, on s'est retrouvé les céréales sous 2 à 3 mètres d'eau avec le flux de la Garonne. Et on va dire qu'on a eu assez peur que le blé soit parti avec le flux. Mais au final, il était bien ancré, bien enraciné, et il avait envie de pousser. Et donc ça nous a permis d'avoir de belles céréales durant l'été. Et donc maintenant d'avoir des beaux blés et de beaux grains pour faire de la belle farine et du bon pain.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et nous retrouvons la page sport avec Jean-Louis.
C'est pas moi la page sport.
Les motards de Noël, les interviews de Jean-Louis.
C'est toi. Mais maintenant, nous allons parler des motards de Noël. Oui, je les ai rencontrés, je les ai interviewés. Nous allons écouter. Au mois de décembre, je vous ai parlé dans l'émission des motards de Noël. Depuis, nous les avons rencontrés et posé quelques questions. Bonjour, je suis Jean-Louis. Comment se passe votre regroupement pour faire les motards de Noël et pourquoi ?
Alors, pour faire les Pères de Noël de Noël, pour faire les motards de Noël, on se regroupe suite à la demande du président des récoltes de l'espoir. En connaissance, on rassemble les connaissances disponibles pour participer à cette action.
Cette action dure depuis 3 ans. Pour vous, personnellement, depuis combien ? Et pouvez-vous nous dire d'où vous venez ?
Alors moi, pour ma part, je suis dans le milieu associatif depuis relativement longtemps, mais cette œuvre-là a été mise en place depuis l'an dernier. Donc depuis l'an dernier, on y est. Nous sommes de Pellegrue principalement et de Duras et Marmande. Ce sont les pompiers de Pellegrue, les pompiers de Duras et l'association Les Récoltes de l'Espoir de Marmande.
Cela représente quoi pour vous les motards de venir apporter du bonheur aux enfants polyhandicapés ?
Alors l'effet, il est bien simple. Quand on arrive sur place, quand on voit briller les yeux de ces enfants, pour nous c'est déjà une réussite, quel que soit le temps. Ça fait plaisir de faire plaisir.
Merci à vous.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis, bonne continuation et joyeux Noël à tous ces enfants.
Et vroom, vroom, vroom. Et bonjour à Philippe qui nous a fait un texte sur le sport en 1994.
Ma chronique sportive concerne l'année 1994. Côté actualité, Robert Hue remplace Georges Marchais à la tête du PSCF. C'est l'inauguration du tunnel sous la Manche. Enfin, la mort de Richard Nixon. Sur le plan sportif, en sport en automobile, cette année est endeuillée sur le circuit d'Imola à Saint-Marin par le décès du triple champion du monde 1988, 1990, 1991, le Brésilien Ayrton Senna. En football, le Brésil remporte sa 4e Coupe du Monde en battant l'Italie au tir au but. En rugby, à Auckland, pour le second test match de la tournée française en Nouvelle-Zélande, la France crée la surprise en l'emportant 23 à 20. En cyclisme, 14 ans après Bernard Hinault, Luc Leblanc à Agrigent en Sicile devient champion du monde. En boxe, à presque 46 ans, George Foreman redevient champion du monde des poids lourds. En natation, en nageant le 100 mètres en 88 secondes 91 centièmes, Alexander Popov prend à Mark Biondi le record du monde. Enfin, pour clôturer cette année, elle voit la naissance du footballeur Benjamin Mendy.
Bonjour, je donne enregistrer ton rugby, top 14. Agen a perdu contre Toulouse 0-50. Clermont a battu Castres 50-19. Montpellier a perdu devant Lyon 16-21. Racing a perdu contre Bègles-Bordeaux 32-33. Pau a perdu contre Brive 29-32. Toulon a gagné contre Tête Français 35-13. La Rochelle a battu Bayonne 40-3. Maintenant, voilà ce classement. Premier Toulouse, deuxième La Rochelle, troisième Toulon, quatrième Racing, cinquième Clermont, sixième Bordeaux, septième Lyon, huitième Tête Français, neuvième Brive, dixième Castres, onzième Toulouse, Pau, deuxième Bayonne, 13e Montpellier, 14e Agen.
Et maintenant, nous allons faire un joyeux départ à Guillaume, qui va nous quitter pour une prochaine émission. Qui va nous quitter, en réalité, pas pour une prochaine émission, que dis-je, pour partir ailleurs. Et j'espère qu'il passera nous voir et qu'il nous donnera beaucoup de nouvelles et que ce sera un bon nouveau départ pour lui.
Eh bien, comme je suis là, j'en profite. Bonjour tout le monde. Ben moi, je voulais vous dire que j'ai passé 5 excellentes années en votre compagnie, parce que ça fait maintenant à peu près 5 ans qu'on fait cette émission de radio, car je faisais partie de l'équipe d'origine, comme je ne crois pas que vous faisiez partie de l'équipe d'origine vous-même, chacun d'entre vous, mais vous êtes arrivés les uns les autres au fur et à mesure de la création de cette émission, et vous avez su au fur et à mesure vous y investir, vous avez su aussi proposer des sujets intéressants, pertinents, avoir pour certains d'entre vous des chroniques spécifiques qui vous tiennent à cœur, comme je vois aussi avec le rugby, avec Jean-Louis autour de la moto, de tout cet univers, vous Valérie plus sur la culture, plus sur l'art aussi, Joseph qui nous a rejoint dans le direct, et c'est votre premier direct je crois aujourd'hui, vous êtes très bien débrouillé pour un premier direct parce que c'est pas facile. Moi je me souviens de mon premier direct il y a 5 ans, je flippais. Je tremblais dans tous les sens, j'étais pas à l'aise, je bafouillais, c'était monstrueux, vraiment monstrueux. Mais je vois que vous êtes très très bien débrouillé, Joseph.
Merci.
Et toutes les autres personnes, bien sûr, qui ne sont pas aujourd'hui en direct, mais qui ont participé et qui participent encore à l'émission. Alors je pense à Sylviane, à Brigitte, à Guilin, à Zédine, qui j'aurais oublié encore.
Philippe.
J'ai oublié plein de personnes. Philippe, effectivement, nous avons eu aussi un Anthony, nous avons eu un Guillaume, nous avons eu un Sylvain, on a eu tellement de personnes que c'est compliqué à se souvenir de tout. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. Alors, je me permets une petite parenthèse, parce que j'en profite, parce que vous avez un invité qui m'intéresse par rapport à son activité, et j'ai une petite question pour lui, donc j'en profite. Voilà, alors, si mes connaissances sont bonnes, il me semble que le blé ancien est donc d'une taille complètement différente des blés que nous voyons dans nos champs habituels, c'est-à-dire que les champs habituels, si vous regardez les champs, ils sont tous au même niveau. Le blé à peu près à 81 mètres de haut, à peu près, 80 cm à mètre de haut. Ils sont tous exactement au même niveau. Il me semble que les blés anciens, ça monte jusqu'à 1,50 m. Est-ce que je dis vrai?
Oui, oui, tout à fait. Cette année, c'est ça. C'était à peu près 1,50 m au moment de la récolte, voire un peu plus pendant la culture. Et on a même semé un peu de seigle l'année dernière pour le multiplier. Et le seigle, lui, faisait plus de 2 mètres de haut. Donc ça change des blés modernes, oui.
Mais voilà, maintenant, nous parlons du départ de Guillaume de la radio. Guillaume est parti d'autres unités, il nous a beaucoup appris et aidé à la radio. J'ai rencontré il y a 5 ans à Fédéry pour la radio. Il m'a appris à parler au micro et je remercie beaucoup. Interviewer des personnes, il m'a fait confiance. Je me souviens d'enregistrement à Saint-Macaire, à la fin de l'Arial. Bonne chance, Guillaume. Je souhaite tout que se passe très bien pour vous. Je souhaite vous dire quelque chose.
Merci Guillaume. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous disons au revoir. Au mois prochain, pour une nouvelle émission de Patafolement, nous voilà. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio en podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Nous voilà, pas la nous voilà.
Pas seulement.